Donc nous commençons notre séminaire intitulé « L'autorité spirituelle ». Et nous prenons la parole dans Romains 13. Romains 13. Verset 1 au verset 2. Romains 13. La Bible dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, d'emblée, j'explique le pourquoi de ce séminaire. C'est que chacun doit comprendre que il y a un ordre dans toute chose. Donc il y a un ordre dans l'appareil qu'on peut appeler le monde. Et cet ordre-là, c'est Dieu qui a fixé cet ordre. Et si on comprend sa place dans cet ordre-là, on fonctionnera normalement. Et cet ordre est expliqué dans le verset 2, quand il est écrit, « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. » Donc, quand je veux parler de l'autorité, je veux parler de l'ordre de Dieu. Donc, quand on peut prendre, par exemple, un appareil ou bien une machine, admettons une voiture, il y a un ordre dans une voiture. Il y a la clé de contact qui démarre le moteur, il y a la pédale d'embrayage, il y a la pédale d'accélération, il y a la pédale de frein. Donc, chacun de ces éléments a son rôle et chacun doit respecter ce rôle pour que la voiture fonctionne normalement. Donc si on freinait en même temps qu'on accélérait, on va abîmer les éléments de freinage. Donc il y aura un problème aussi dans le moteur. Donc il y aura un dysfonctionnement finalement qui sera désavantageux à tout le monde. Donc et à celui qui crée le dysfonctionnement et à tout le monde aussi. Donc c'est dans ce but-là que nous faisons ce séminaire, que chacun soit dans le rôle que le Seigneur a prévu pour lui et marche dans la soumission à ce rôle-là, et ça sera le bien-être de tout l'ensemble. Donc c'est dans cette optique-là, et cela est décrit dans ce verset qui dit « Celui qui résiste à l'autorité résiste à l'enchaînement des choses, mais il résiste à Dieu, à l'ordre total. » Donc, c'est comme si on voulait la pédale de frein décider de devenir l'accélérateur. Finalement, c'est l'ordre général qui est touché et ça ne va faire que perturber les choses. Donc, c'est comme ça qu'on doit envisager ce séminaire. Voir l'univers, voir le monde comme étant un appareil, comme étant une machine qui fonctionne sous les ordres de Dieu. Et dans cette machine, chacun a son rôle. Et ces rôles-là, on peut les appeler des autorités. Chacun a une autorité et son autorité contribue à la bonne marche. Quand on dit la bonne marche, selon les objectifs de celui qui l'a créé. Bien sûr qu'il y a des gens qui iront, par exemple, en affaires, mais ça contribue à la bonne marche du monde tel que Dieu l'a créé. Donc le pécheur puisse, s'il ne se répand pas, aller en enfer. C'est la bonne marche des choses. Donc ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de négatif que ce n'est pas la bonne marche. Donc ça contribue à la bonne marche. Si Dieu est bon, il faut que le pécheur paye pour ses péchés. Donc si Dieu est bon, il faut que celui qui se répand de ses péchés soit sauvé. Donc tout ça contribue à la bonne marche et tout cela peut être résumé, cet ordre-là de la machine, on peut appeler ça dans un autre langage, on peut conférer à cet ordre-là un autre terme, c'est l'autorité. L'autorité spirituelle, l'autorité. Tout marche en fonction de l'autorité. Et donc, quand on voit même notre monde tel qu'il est constitué, on ne parle que d'autorité. Lorsqu'on est dans une famille, il y a l'autorité du papa, l'autorité de la maman, l'autorité de l'aîné. Lorsqu'on est à l'école, l'autorité du professeur, l'autorité du directeur sur le professeur. Et lorsqu'on est au travail, c'est l'autorité du directeur. Donc, notre société fonctionne en autorité, dans un système d'autorité. Donc, c'est en même temps l'ordre de la société. Donc, je voulais éclairer, nous voulions éclairer ce système d'autorité afin que chacun fonctionne correctement et soit libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, il y a des bien-aimés qui connaissaient la vérité, comme notre Seigneur Jésus-Christ, devant Pilate, dans Jean 19. Donc, nous allons lire ça aussi, Jean 19. D'ailleurs, c'est ce passage, entre autres, qui m'a été inspiré, qui est à l'origine de ce séminaire. Jean 19, 10. On peut commencer au verset 9. Il rentra dans le prétoire, ça c'est Pilate, et il dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Voilà, Pilate qui menace Jésus, dit, « Mais j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher. Je suis en quelque sorte plus fort que toi. » Jésus lui dit, « Mais non, tu n'es pas plus fort que moi. Le pouvoir que tu as t'a été donné. » Donc, le monde fonctionne dans une logique d'autorité. L'autorité que tu as sur moi, ben, t'a été donnée. Donc, et moi, je suis branché à l'autorité donc principale qui t'a donné cette petite autorité que tu as sur moi pour le moment. Donc, je me lâche à toi parce que tu as l'autorité de me crucifier. C'est pourquoi je me livre à toi. Tu n'aurais pas cette autorité, je ne me serais pas livré à toi. Donc Jésus, notre Seigneur lui-même nous donne cette explication sur l'autorité. Donc quand on comprend où se trouve l'autorité, on se soumet. Et lorsqu'il n'y a pas l'autorité, on ne se soumet pas. Et parfois même s'il y a l'autorité, on sait que la vraie autorité c'est Dieu. Et on ne craint pas l'autorité. Comme l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre au chapitre 3 du verset 1er au verset 7, quand il exhorte les femmes à être soumises à leur mari, il dit mais que ça se fasse sans crainte. Donc vous n'avez pas à craindre. Mais vous devez vous soumettre parce que c'est l'ordre de Dieu. C'est un ordre. Je ne dis pas ordre dans le sens commandement, mais ordre dans le sens de structuration. C'est l'enchaînement des choses telles que Dieu a fait pour que le monde marche. Il faut que la femme soit soumise à son mari. C'est un enchaînement, c'est un ordre de Dieu. Et quand vous vous soumettez, que ça ne soit pas par peur, mais que ça soit dans le respect de l'ordre de Dieu. Voilà, quand on comprend comment fonctionne l'autorité, on n'aura plus à avoir peur des gourous, des sectes qui menacent les gens de malédiction en tout moment. On n'aura plus à avoir peur, de parler lorsqu'on doit parler. Parce qu'on sait que Dieu nous a donné une certaine autorité aussi. Mais en même temps, on n'aura plus non plus honte de se soumettre à un moins jeune que soi. On n'aura plus honte de se soumettre à quelqu'un qui est plus petit de taille. On n'aura plus honte de se soumettre tout simplement à une personne. Parce qu'en se soumettant à cette personne, ce n'est pas cette personne-là qu'on élève, mais c'est plutôt l'ordre de Dieu qu'on respecte. Voilà. Et ce faisant, l'organisme qu'on appelle l'univers et l'organisme qu'on appelle l'Église, c'est ce qu'on va voir demain, va fonctionner normalement et tout le monde sera béni. Et nous, les premiers, nous qui respectons le système d'autorité établi par Dieu. Donc nous allons lire Daniel 2, 21. Daniel 2, 21. La Bible dit ceci. On peut commencer au verset 20. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Amen. Alors ce verset aussi est extraordinaire. Il nous montre quelque chose de clair. C'est Dieu qui décide. Même quand un moustique te pique, c'est Dieu qui lui a donné cette autorité-là. Le moustique demande, est-ce que je peux piquer? Dit, vas-y, il y a le médicament après qui va le guérir. Donc, Dieu donne, il décide sur toute autorité. Donc, toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui établit les rois, c'est lui qui les enlève. Peu importe ce qu'on voit, nous on peut voir que quelqu'un fait un coup d'état parce qu'il avait une grosse armée. Mais si Dieu n'aurait pas voulu, il n'allait pas prendre le pouvoir. C'est Dieu toujours qui décide sur les autorités, quelles qu'elles soient. C'est lui qui établit les autorités et qui les change. La Bible dit même qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alors, nous allons commencer par définir l'autorité. L'autorité, c'est le droit et le pouvoir de donner des ordres, de commander, de prendre des décisions, mais aussi d'agir. Alors, je commençais par un mot très important, le droit. Et on va voir la différence avec le pouvoir ou la puissance. La puissance, c'est la capacité à agir, parfois à donner certains ordres. Mais sauf que, dans l'autorité, nous avons dit un mot principal, le droit. C'est-à-dire, quand tu as l'autorité, tu es dans ton droit. Mais, il y a une certaine autorité qu'on peut avoir de fait juste parce qu'on a une puissance, alors qu'on n'est pas dans notre droit. Un exemple, un bandit, s'il venait avec une arme devant ta boutique, devant le comptoir, et te disait, ben, donne-moi l'argent, il a une puissance. Il a une puissance qui lui donne une certaine autorité. Mais ce n'est pas la vraie autorité, c'est une autorité comme volée. Donc, il va te faire peur. Mais la vraie autorité, c'est laquelle? Ben, celle qui fait que, qui décide que ce qu'il fait là est mauvais. Et cette autorité-là finira par avoir le dernier mot. C'est-à-dire la puissance. On retrouve cela dans l'autorité. Mais on peut avoir le pouvoir, la puissance, sans avoir l'autorité. Donc on n'a pas le droit. On a tout ce que j'ai cité après. Donc on a la capacité à agir, on a la capacité à prendre des décisions, parce qu'on a une certaine puissance. Mais on n'a pas le droit. Et c'est ce qui fait la différence entre l'autorité et la puissance. Et l'autorité vient de Dieu. C'est-à-dire le droit à faire quelque chose que Dieu te laisse faire, ça vient de lui. Et toute autorité que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui institue ces autorités-là. C'est pourquoi la parole dit, nous devons obéir à ces autorités telles qu'elles sont fixées en fonction de là où nous sommes. Donc, si on est dans un pays où il y a un roi, ben, on obéit à ce système-là où c'est un roi qui dirige. Si on est dans un pays où il y a un président, on obéit à ce système où ce président dirige. Donc, nous soumettons, parce que nous croyons que c'est l'ordre de Dieu pour faire avancer son règne à lui. Et j'avais donc cité Daniel pour qu'on comprenne que toute autorité vient de Dieu. Donc ce droit-là à agir, ce droit-là à prendre des décisions, ça vient de Dieu. Donc quand un père prend des décisions, ce droit-là pour sa famille vient de Dieu. Donc c'est cela. Et donc quand on connaît le fonctionnement biblique de l'autorité, on est vraiment tranquille, on est libéré, on n'a plus peur, parce qu'on sait que finalement tout remonte à Dieu. Donc quand il y a une autorité en face de soi, on n'a pas peur, on ne tremble pas, mais on respecte, on se soumet, mais en même temps, on est libre, parce qu'on sait que tout remonte à Dieu. On est tellement libre, à tel point que l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont dit aux chrétiens qui étaient esclaves autrefois, ne cherchez pas à fuir de l'esclavage. Puisque vous êtes libre, ce n'est pas parce que officiellement vous êtes esclave que vous êtes esclave en réalité. Dieu vous a libéré. Considérez vos maîtres comme étant des autorités que Dieu a mis devant vous. Un point, c'est tout. Tout vient de Dieu. Du moment que cet homme-là s'est retrouvé être ton maître, ben c'est Dieu qui a institué les choses ainsi. Mais quand tu auras une occasion favorable, une occasion voulue de Dieu pour quitter l'esclavage, tu en profites. Mais ne fais pas comme si tu vas devenir libre lorsque tu ne seras plus esclave physiquement. Tu peux être physiquement libre, mais être esclave de l'alcool, esclave du péché, esclave de la haine, de la colère, esclave d'un tas d'autres choses. La vraie liberté, c'est le fait d'être régi par Dieu directement, d'avoir pour autorité directe Dieu lui-même. Et tout le reste, pour toi, va tomber sous le coup de Romains 8, 28, tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, du moment que Dieu est ton autorité directe, tout le reste, ça sert que sa volonté pour accomplir son plan, comme notre Seigneur Jésus l'a si bien dit à Pilate, tu n'aurais pas ce pouvoir si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Voilà. Donc, c'est la définition de l'autorité, ce droit-là, qui vient de Dieu. Et on a donné la différence avec la puissance. Maintenant, nous allons expliquer, décrire l'étendue de l'autorité. Donc, lorsque nous voyons le fonctionnement de l'autorité, quelle qu'elle soit, il y a plus des paramètres qui reviennent souvent. Donc, il y a, premièrement, l'étendue temporelle. Donc, le champ temporel. Et on voit que contrairement à Dieu, les humains peuvent avoir des autorités temporelles alors que Dieu, son autorité est éternelle, donc n'a point de limite. Mais les autres autorités ont des limites. Il y a des limites dans le temps. Par exemple, les présidents américains ont 8 ans pour exercer leur autorité en tant que président. 4 ans renouvelables, donc ça fait au maximum 8 ans. Donc leur autorité est limitée dans le temps. Et lorsque nous sommes professeurs, nous avons cette autorité-là. Pendant le temps on a ce titre-là. Lorsqu'on n'a plus ce titre-là, on n'a plus cette autorité-là, là où on était, soit dans une université, soit dans une école. Donc, tout humain, l'autorité qu'elle a, c'est dans le temps. Et ça peut se faire même jusque dans les esprits. Donc, il y a certains esprits mauvais à qui Dieu laisse un temps. Il laisse un temps. On se souvient de Job, quand il était livré entre les mains du diable. Donc, Dieu avait laissé un temps au diable pour le cas de Job. Donc il y a le temps dans l'étendue de l'autorité. Donc il y a un temps et nous devons comprendre ces choses-là. Et il y a l'étendue physique, le champ physique, l'étendue physique, ça correspond à des lieux, donc ça correspond à la localité. Donc il y a des limites géographiques en ce qui concerne une autorité. Par exemple, un président donc est autorité en tant que président dans son pays. Donc, un préfet est autorité dans son département. Donc, il y a des limites territoriales, physiques, et des limites territoriales, spirituelles. Donc, il y a ces limites-là qui existent. Et comme un père de famille est autorité, donc en tant que père dans sa maison, donc il y a des limites territoriale, nous passons à l'autre étendue, c'est l'étendue humaine. Donc, quand on a une autorité, c'est sur une population humaine. Bon, après, les humains sont liés à des animaux, on peut élargir si on veut, mais c'est sur une population humaine. Donc, quand on a une autorité, le père est autorité dans sa famille, le directeur d'une école est autorité sur les élèves de son école. Donc, il y a une population humaine. Le pasteur est une autorité sur les brebis que le Seigneur lui a confiées. Donc, il y a une étendue humaine sur laquelle Dieu nous a établis. Donc, nous devons saisir toutes ces différences-là. C'est très important. Beaucoup n'ont pas compris ces différences et ils sont sortis des limites que Dieu a fixées pour l'autorité qu'il leur a donnée. C'est ce qui fait beaucoup de déboires au milieu des pasteurs, beaucoup de déboires au milieu des chrétiens, parce qu'ils quittent les limites parfois fixées par Dieu pour leur ministère, pour leur mission. Donc c'est très important de connaître ces limites. Et comme je ne sais pas si je reviendrai sur ce verset, je préfère qu'on le lise. L'apôtre Paul qui dit dans 2 Corinthiens 10, 2 Corinthiens 10, il dit ceci, « Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. » Donc, l'apôtre Paul était conscient du champ d'action que Dieu lui a assigné, du territoire, de l'étendue temporelle, physique, de l'étendue de la population. Donc, il était conscient que Dieu m'a confié un tel peuple, Dieu m'a confié un tel territoire physique pendant tel temps. Il a fait 3 ans à Éphèse, après il a quitté, il est parti. Donc, l'apôtre Paul marchait dans la logique d'autorité. Donc, il savait que là, mon temps est fini, dans ce lieu, je m'en vais. Il y a un moment, il voulait partir évangéliser quelque part. La Bible dit, l'Esprit Saint l'en a empêché. Donc, l'apôtre Paul était conscient que, pourtant, il pouvait appliquer dire la même chose. S'il a évangélisé ici en disant Jésus a fait ceci, cela, il pouvait aller dans un autre territoire dire la même phrase. Mais la Bible dit que l'Esprit Saint l'en a empêché. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 16. Donc, l'Esprit Saint l'en ayant empêché, il n'est pas parti. Donc, il a compris que dans cette région-là, s'il partait, il n'avait pas autorité, puisque l'Esprit Saint lui a interdit. Mais pourtant, il avait la même puissance. Il pouvait dire les mêmes phrases, la même éloquence. Mais il n'avait pas le droit, pas l'autorité, donc pas l'accompagnement du ciel. Donc, quand on a l'autorité, on a l'accompagnement du ciel, l'accompagnement de la structure qui nous a conféré l'autorité. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, on a aussi une autorité sur une population. Et puis, il y a une étendue spirituelle. Donc, on a une autorité sur des domaines spirituels que Dieu nous a confiés. On peut avoir une autorité dans l'enseignement. On peut avoir une autorité dans la guérison. On peut avoir une autorité dans les miracles. Donc, il y a des gens qui ont une autorité qui, quand elle fonctionne, ça arrive régulièrement, je veux dire, parce que ça peut arriver à tout chrétien de faire certaines choses, mais pour ces gens-là, ça arrive régulièrement, par exemple, de faire pleuvoir, de faire fermer le ciel, de faire des miracles sur la création carrément, parce qu'ils ont reçu cette autorité-là de Dieu. Donc, il y a une étendue spirituelle. Il y a l'étendue spirituelle, le champ d'action spirituelle peut aller aussi au niveau des démons, parce qu'il y a des démons qui bloquent certains endroits, il y a des démons qui bloquent certaines populations. Donc, et après, Dieu confie l'autorité à certains enfants, à certains de ses enfants, pour aller vaincre ces démons-là. Donc, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit David, avant d'aller en guerre, il dit, Seigneur, monterai-je ou pas? Donc, il demande d'abord la permission au Seigneur. Si le Seigneur lui dit, je te livre ces gens-là, là, il monte. Donc, il a reçu autorité pour gagner cette guerre-là. Donc, c'est la même chose dans le monde spirituel. Il y a des esprits. Avant d'aller les combattre, il faut que ce soit Dieu qui te dise, je les ai livrés entre tes mains. Tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que d'une manière générale, le Seigneur nous a donné le passage. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Mais c'est une autorité donnée à l'Église. Maintenant, à chacun, tu as une mission particulière à faire, et dans ta mission, tu reçois cette autorité-là pour qu'il n'y ait pas de désordre. Parce que si chacun pouvait décider maintenant, je vais faire ce que je veux parce que j'ai une autorité générale sur le diable, après c'est le désordre. Tu vas aller, comme Paul le dit, empiéter sur les territoires des autres que Dieu finalement, le travail de Dieu ne va pas se faire d'une manière claire, d'une manière solide, parce que tout le monde fait ce qu'il veut, parce que tout le monde a l'autorité sur tout. Non. Donc Dieu limite les autorités qu'il donne aux gens, mais à l'Église, en tant que corps, il n'y a pas de limite. Donc, dans son ensemble, il n'y a pas de limite, mais individuellement, il y a quand même des limitations, et même spirituelles. Donc, il faut qu'on comprenne une chose aussi. Par rapport à la défensive, il n'y a pas de limite pour chacun. Ça veut dire que le diable peut attaquer toi, un nouveau chrétien converti. Même si c'est lui le diable, le chef des démons, il ne peut rien contre toi. Par rapport à la défense, nous avons une autorité pleine, donc spirituellement parlant. Donc même s'il y avait 10 000 démons qui t'attaquaient, ils ne peuvent rien contre toi. Donc on a des promesses claires et formelles. Donc on a une autorité sans limite individuellement par rapport à la défense. Mais par rapport à l'attaque, il y a des limites que Dieu nous a fixées pour qu'on ne s'embrouille pas, pour qu'on ne se marche pas non plus sur les pieds dans le travail du Seigneur. Voilà donc ce que je peux dire donc par rapport aux étendues, au champ d'action de l'autorité. Il y a encore une autre notion qu'on doit savoir, c'est puisque c'est Dieu qui est l'autorité suprême, tous les restes ne sont que des autorités par délégation. C'est Dieu qui délègue son autorité d'une manière ou d'une autre. Ben, par exemple, comme Dieu, il ne pouvait pas faire souffrir Job directement de lui-même, il a délégué cette autorité au diable pour que le diable fasse ce boulot-là. Donc, Dieu délègue son autorité à quelqu'un pour prier pour un autre pour que la personne soit la deuxième soit guérie, la deuxième personne soit guérie. Donc Dieu délègue son autorité. Tout le reste ne sont que des délégations. Il y a des délégations directes. Donc ça veut dire que Dieu de lui-même décide de déléguer cela dans sa volonté, dans son désir à lui. Donc on peut appeler ça la volonté expresse de Dieu. Dans son désir à lui, il décide de te donner une autorité. Mais il y a des délégations indirectes, c'est-à-dire Dieu a donné l'autorité à quelqu'un, et cette personne-là, soit par erreur, soit dans sa volonté à elle-même, elle donne l'autorité à quelqu'un d'autre. Un exemple, quand Dieu a créé le monde, il a donné l'autorité directement à l'homme de dominer sur les poissons, sur les animaux, sur la création. Mais quand Adam a péché, indirectement, il a donné l'autorité au diable sur lui. Ce n'est pas Dieu de lui-même qui a dit « je voulais donner l'autorité au diable sur l'homme ou et sur la terre », mais c'est Adam qui a pris son autorité et a donné au diable, sans bien sûr le savoir, mais c'est d'une manière indirecte finalement que le diable a eu autorité sur la terre, sur beaucoup de choses de la terre, parce que Adam a péché. En péchant, il est entré dans le domaine du diable, finalement, il a cédé son autorité au diable. Donc, il y a des autorités qu'on reçoit d'une manière directe, donc venant de Dieu, comme un papa a une autorité directe venant de Dieu sur ses enfants, sur sa famille, comme c'est écrit, « Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps ». C'est un commandement de Dieu, c'est une autorité directe qu'il reçoit sur les enfants. Maintenant, il y a des autorités indirectes. Lorsqu'un homme va, par exemple, faire de la magie, et quand il va faire de la magie, on lui donne de l'argent, mais sans qu'il le sache, il donne l'autorité, peut-être sur une partie de son corps, au diable, peut-être sur sa famille, au diable. Donc ça, ce sont des autorités indirectes, et il y en a plein comme ça. Il y a, par exemple, des pasteurs qui donnent des pouvoirs à certaines personnes, des postes de responsabilité à certaines personnes sans consulter Dieu. Après, ces gens-là ont des titres, fonctionnent, mais ce n'est pas une autorité directe qui vient de Dieu, mais c'est une autorité indirecte que Dieu tolère quand même, il faut le savoir. Donc que Dieu tolère quand même, parce que la source, c'est ce pasteur-là à qui Dieu a donné vraiment une autorité, Et finalement, bon, si lui fait ces erreurs-là, Dieu tolère. Mais maintenant, ça c'est entre parenthèses puisqu'on en parlera demain. Mais comment faire dans ce cas-là? C'est chacun, on va le voir, le chrétien a reçu aussi l'autorité de la libre décision. Donc il doit voir avec son Dieu qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Il continue à se soumettre ou bien il quitte l'environnement de cette autorité-là. Mais il ne faut pas entrer en conflit avec une autorité sous prétexte que elle a été établie charnellement. Non, si Dieu a laissé faire, c'est que Dieu tolère, Dieu accepte les choses ainsi. On sort de cette autorité, soit on se soumet. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner. Si on comprend ce fonctionnement-là, je crois que beaucoup de choses vont évoluer et la puissance de Dieu va se manifester pour faire avancer son œuvre. Nous nous arrêtons là sur la description de l'autorité et nous allons parler aujourd'hui de l'autorité du chrétien. Donc, c'est la deuxième partie de cette première journée. Donc, l'autorité du chrétien, nous avons expliqué que l'autorité rime, donc va ensemble avec les responsabilités, avec le service pour lequel Dieu nous appelle. Donc, quand on dit autorité, on voit en même temps un rôle, on voit en même temps une mission. Donc, le chrétien a une autorité que Dieu lui a donnée et la Bible nous le montre que premièrement le chrétien Dieu l'appelle à être un sacrificateur. Donc un sacrificateur, les sacrificateurs autrefois ils servaient à l'adoration et à l'intermédiation, c'est-à-dire que c'est eux qui à travers les sacrifices qu'ils faisaient à l'autel rendaient gloire à Dieu à la place du peuple. Parce que le peuple n'avait pas la permission de faire ces sacrifices-là. Ce n'est que les sacrificateurs qui avaient cette permission. Donc, en quelque sorte, le peuple adorait Dieu par le sacrificateur. Parce que le peuple n'ayant pas la permission d'aller tuer l'animal sur l'autel, c'est le sacrificateur qui le faisait. Et donc, le chrétien, aujourd'hui, Jésus en parle dans Jean 4, il dit, Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et ces adorateurs-là, ce sont les chrétiens. Donc les nouveaux sacrificateurs, dont nous lisons ça dans Apocalypse au chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er. La Bible dit, on commence un peu dans le verset 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu nous a donné l'autorité d'adorer ce que les autres n'ont pas. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais l'adoration est réservée aux proches de Dieu. La louange, c'est citer ce que Dieu a fait d'extraordinaire, les bienfaits de Dieu. Par exemple, tu peux dire que, ah oui, Dieu a fait de bons fruits, il a fait un beau ciel, il a fait de beaux fleuves, il a créé des fleurs extraordinaires. Ça, c'est la louange. Donc, les exploits de Dieu, les hauts faits de Dieu. Maintenant, l'adoration, ça se réfère à la nature de Dieu. Or, tout le monde, tous ceux qui ne sont pas sauvés par le sang de l'agneau, ne connaissent pas la nature de Dieu parce que seul le Saint-Esprit peut nous révéler la nature de Dieu. Or, le Saint-Esprit ne vient que en ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui se sont laissés sauver par Jésus-Christ. Et donc, nous avons l'autorité d'adorer Dieu par la vision que le Saint-Esprit nous donne de lui. Il nous donne la vision de Dieu, qu'il est éternel. Il nous donne la vision de Dieu, qu'il est tout-puissant. Ça, on ne peut pas l'avoir par le raisonnement. Le raisonnement ne peut pas nous montrer ce que Dieu est réellement. Seul le Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, peut nous faire réaliser ce que Dieu est réellement. Et nous avons cette autorité-là d'adorer Dieu. Souvenons-nous, Jésus-Christ avait dit, ce n'est ni dans le temple, ni dans la montagne, mais c'est en vérité et en esprit. Et Jean 16, 13 dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Donc on voit que seuls ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu, ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu l'Esprit de Dieu qui peuvent vraiment adorer le Seigneur. Et Sacrificateur, ça veut dire aussi les gens qui font l'intermédiation. Donc, je ne veux pas dire intermédiaire, parce qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ, mais c'est des gens par qui Dieu passe pour bénir, et c'est des gens aussi par qui les autres passent pour faire leur doléance à Dieu. Et donc, nous sommes des sacrificateurs. Aujourd'hui, nous appelons ça des intercesseurs. Donc, des gens qui crient à Dieu, qui demandent la grâce de Dieu en faveur de ceux qui se perdent, en faveur de ceux qui ont des problèmes, en faveur de ceux qui ont des difficultés. Nous avons cette autorité. Donc, quand on dit cette autorité, on avait expliqué, c'est la capacité à agir, à prendre des décisions. Donc, on a cette autorité-là de supplier Dieu de sauver un homme mauvais, de supplier Dieu de sauver notre pays, de sauver notre famille. C'est une autorité, c'est un pouvoir. Donc on doit l'utiliser. Ce n'est pas tout le monde qui a cette autorité-là. Il y a un verset dans Jérémie 15 qui le dit clairement, que même si Daniel, même si Samuel, Dieu cite, je crois, 2 ou 3 serviteurs de Dieu, il dit, même si ces serviteurs-là venaient me demander, je ne changerai pas ma décision. Donc, ce passage-là de Jérémie 15 nous montre que ce n'est pas réservé à tout le monde d'intercéder, de faire changer la décision de Dieu. Quand Dieu a décidé de frapper un pays, de frapper un homme, ce n'est pas tout le monde qui peut faire changer cette décision-là. Ce n'est que des gens précis, et Dieu nous donne cette autorité-là de sacrificateur, de pouvoir, à travers la prière, alors que Dieu, normalement, devait se mettre en colère contre quelqu'un et le frapper, nous, à travers la prière, nous détournons la colère de Dieu et nous réclamons sa grâce, et Dieu change d'état d'esprit et bénit la personne pour l'amener au salut, bien sûr, parce que l'objectif de Dieu, c'est quand même le salut. Ça reste le salut principalement. Et donc, c'est ça l'autorité que nous avons en tant que sacrificateurs. Nous avons l'autorité, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 18, nous avons l'autorité de la réconciliation. Donc, nous avons reçu la capacité d'amener la réconciliation entre un homme et Dieu. Et c'est ce que Jésus appelle, Jésus dit, quand il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, à qui tu ouvriras, cela sera ouvert. Donc aujourd'hui, beaucoup sont exclus du royaume de Dieu, mais nous avons la capacité de les faire entrer dans ce royaume. Comment? Par la parole de la réconciliation, la parole de la prédication. Quand nous leur exposons cette parole-là, cette bonne nouvelle, nous pouvons les faire entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous lisons dans 2 Corinthiens 5, au chapitre 17, « Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc Dieu nous a donné le service, le ministère, l'autorité de réconcilier des gens avec lui. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde, hein. Aujourd'hui, le Premier ministre a un problème avec un employé d'un département, ce n'est pas n'importe qui va, toi un huissier qui va aller chercher François Fillon pour lui dire, ben écoute, réconcilie-toi avec ton employé. Non, ça sera peut-être le président, ça sera peut-être un autre ministre. Alors, vous imaginez que nous, on a l'autorité d'aller voir Dieu, de dire, Seigneur, nous voulons que tu te réconcilies avec un tel. Voilà, tout chrétien a cette autorité-là, cette capacité-là de s'approcher de Dieu et de lui dire, Seigneur, aie pitié, réconcilie-toi. Bien-aimé, la comparaison, quand on dit comme ça, on a cette autorité, on trouve cela, ben oui, gloire à Dieu. Mais comparez, bien-aimé, imaginez que le Premier ministre ait un problème avec quelqu'un d'autre. Qui es-tu toi pour aller le voir pour dire, réconcilie-toi. Je veux que tu aies pitié. Seigneur, aie pitié. Non. Mais nous, Dieu nous donne cette capacité d'aller le trouver, lui. Dis, Seigneur, c'est vrai que cet homme-là t'a humilié, t'a déshonoré en faisant ceci, cela. Mais Seigneur, souviens-toi du sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. N'est-ce pas qu'il a coulé pour son salut de cette personne-là? Nous avons cette autorité. C'est une grande autorité dont nous pouvons changer l'attitude de Dieu par rapport à quelqu'un. C'est très important. Donc, nous avons reçu cette ce ministère-là des réconciliations par rapport aux humains. Et nous lisons Galates 5.1. La Bible dit, donc une autre autorité que nous avons, c'est la liberté. Dieu nous a libérés. Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà une autre autorité. C'est la liberté. Donc quand on dit liberté, ça ne veut pas dire libertinage. Parce que d'ailleurs notre séminaire c'est l'autorité. Donc c'est que chacun devrait, comme l'apôtre Paul dit dans Romains 13, 1 à 2, chercher qui sont ses autorités supérieures. Parce que la Bible dit soumettez-vous à toutes les autorités supérieures. Donc chacun doit dans son cœur, dans sa vie, se demander qui sont mes autorités. Dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine, qui sont mes autorités pour que je me soumette à eux pour que ma vie fonctionne normalement. Voilà. Donc, au contraire, donc, quand on dit maintenant on est libre parce que dans tout cela, notre plus grande autorité, le souverain, c'est-à-dire que lui qui n'a de compte à rendre à personne, c'est Dieu. Acte 5:29 dit que entre obéir à Dieu et aux hommes, on obéit à Dieu. Donc, c'est ça notre liberté, c'est de savoir que finalement, ma plus grande autorité, c'est Dieu. Il me protège, il s'occupe de moi, c'est lui qui décide sur ma vie. Et donc, on est libre. Maintenant, s'il y a conflit entre l'autorité de Dieu et l'autorité des hommes, même si ces hommes-là, c'est Dieu qui les a établis autorité sur nous, s'il y a conflit, on obéit à qui ? On obéit à Dieu. Donc, c'est ça notre liberté. On est libre. Et l'apôtre Paul dit, puisque Jésus vous a libéré, alors pourquoi vous mettre encore sous le joug, dans l'esclavage de quelque chose d'autre? Et il y en a qui vont penser toujours quand on dit autorité, ils vont voir un homme, hein? Ils vont voir un système. Il n'y a pas que le système, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi le péché, il y a aussi la mode. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être ton autorité. Donc tu ne peux pas, il y a un certain niveau, tu ne peux pas les dépasser parce que c'est tes autorités. Il y a des gens pour qui la nourriture est une autorité. Donc, quand il entend le mot jeûne, c'est comme si on le pique par un poignard. Tchaaaa! Donc, la nourriture règne sur lui. Il y en a pour qui le midi, dont l'heure là, midi, pour toi c'est rien, tu vois ça dans une montre, il est midi. Mais pour certains, midi, c'est le tyran, le dictateur. Donc, dès que c'est midi, il faut que la table soit dressée. Donc, tout ça, c'est des autorités. Mais malheureusement, indirectes. Mais c'est des autorités. Donc, l'apôtre Paul dit, mais Jésus vous a libéré. Pourquoi vous mettre encore sous un autre joug? Bien-aimé, il y a plein de gens comme ça qui ont des autorités. Il y en a qui ont encore des autorités, les traditions de leur famille. Dans notre famille, ça se passe comme ça. Donc, c'est son chef, ces traditions-là. C'est des autorités. Et Jésus dit, vous êtes libre, comment vous dépendez encore de ces choses-là? Bien-aimé, comment vous dépendez encore de ça? Il y en a pour qui, un jour de l'année, c'est leur chef. Ce jour-là, il doit être à tel endroit, avec telle personne. C'est son autorité. Jésus dit non. Si c'est possible, d'accord, mais si Dieu décide autrement, tu dois te soumettre à Dieu. Il y a plein d'autorités qu'on néglige et qui sont devenues, qui ne sont pas des autorités directes de Dieu, qui sont des autorités indirectes et qui se mettent en conflit avec l'autorité de Dieu parfois. Bien-aimés, réveillons-nous et ne nous laissons pas arracher la liberté que nous avons reçue en Christ. Notre liberté, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui dirige notre vie. C'est ça notre liberté. Il décide où on doit être, ce qu'on doit faire. À quel moment on doit parler, à quel moment on doit se taire. C'est ça notre liberté. Notre liberté peut nous conduire à nous taire alors que tout le monde nous pousse à parler. Notre liberté peut nous conduire à parler alors que tout le monde nous pousse à nous taire. C'est ça la liberté. Donc on obéit à Dieu en premier. C'est ça notre liberté. On obéit au Saint-Esprit en premier. et les autres autorités viennent en dessous. C'est ça notre liberté, que personne ne nous arrache cette liberté-là. Donc, par conséquent, bien-aimé, j'enjambe sur notre autorité, mais je lis les deux. Et la Bible dit dans Hébreux 10, 25, « N'abandonnez pas vos assemblées, mais exhortez-vous les uns les autres. Hein? » Maintenant que vous voyez venir le jour, donc le jour de la venue de Jésus-Christ, donc exhortez-vous. Donc on a, en tant que chrétien, la liberté d'exhorter tout autre chrétien. Maintenant qu'il accepte cette exhortation, une exhortation c'est une parole qu'on donne à la personne, une parole d'édification, une parole aussi de correction. Donc nous avons cette liberté là. Donc bien aimé, donc je lis les deux parce que je veux dire une chose. Aujourd'hui il y a des chrétiens qui sont incapables de dire à leur pasteur qu'ils se trompent. Il y a des chrétiens qui sont incapables. Ils ont tellement peur qu'on les maudisse. Ils ont tellement peur que le pasteur se fâche. Mais bien aimé, non. Nous, en tant que chrétiens, on a la liberté de dire au pasteur, mais le verset que tu as cité, ce n'est pas dans la Bible. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, la Bible dit au verset 10 que les chrétiens de Bérée vérifiaient tout ce que Paul leur disait, si c'était vrai. On a la liberté d'aller voir le pasteur et de dire, mais pasteur, la façon dont tu as interprété le verset, moi je trouve plutôt que ça serait comme ça. À lui de nous convaincre par l'esprit. Et si lui a l'autorité, le Saint-Esprit finira par nous convaincre. Il faut savoir une chose, la puissance peut avoir le premier mot, mais l'autorité a toujours le dernier mot. On peut toujours voler quelque part parce qu'on est puissant, mais un jour la police nous rattrapera. Donc l'autorité a toujours le dernier mot, la vraie autorité. La fausse autorité peut avoir toujours le premier mot. C'est pas grave, même si quelqu'un te contredit alors que c'est toi qui as raison. Sache que la raison finira toujours par l'emporter. Parce que la raison est soutenue par l'autorité directe de Dieu lui-même. Donc un pasteur ne peut pas avoir peur qu'on le contredise. Il y en a qui disent, ah surtout pas en public, parce que tu vas baisser son autorité. Mais non! Celui qui ose affronter l'autorité en public, ben s'il se trompe, Dieu aussi va l'humilier en public aussi. Voilà, donc un serviteur de Dieu ne peut pas avoir peur de la contestation. Au contraire, il doit être sûr que son Dieu étant avec lui, tout concourt pour le bien de son, du ministère qu'il fait, de l'œuvre qu'il est en train de faire. Donc aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont abandonné leur liberté d'exhorter. Donc ils croient que c'est eux seulement à qui on doit exhorter. Non, tout chrétien est capable d'exhorter l'autre chrétien. Tout chrétien doit exercer cela quand l'Esprit Saint l'y pousse, même si c'est son pasteur. Maintenant, après, on pourra toujours discuter s'il y a des erreurs, que celui qui est dans la raison se justifie, mais il n'a pas à avoir peur qu'on le corrige. Donc, en tant que chrétien bien-aimé, vous avez la liberté d'aller voir le pasteur pour lui dire, oh, pasteur, une nouvelle Mercedes, l'argent vient d'où? Toi aussi, pasteur, ne sois pas choqué. Il dit, oui, non, l'argent vient de tel. Bien-aimé, il n'y a pas de secret, puisque si tes affaires sont honnêtes, pourquoi ça, on va faire du secret dans ces choses-là? Alors que l'état dans lequel nous sommes, c'est quoi? C'est que plein de chrétiens sont là dans leur cœur à murmurer. Oh tiens, le pasteur a changé encore de costume. Mais on ne comprend plus là. Mais va demander au pasteur, mais on ne comprend plus là. Donc c'est chaque dimanche, un costume nouveau. Qu'est-ce qui se passe? D'où tu tiens l'argent? Lui, non, bien-aimé, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est parce qu'on n'applique pas cette liberté-là qu'on a de cœur impur. On est en train de ruminer des choses dans le cœur parce qu'on n'applique pas la liberté que nous avons reçue de Jésus-Christ. C'est parce qu'on n'applique pas cette liberté-là qu'un jour on se retrouve, déjà on est sous l'eau, dans une bonne prison, bien lié, bien enfermé. Parce que pendant tout le temps où on devait appliquer la liberté qu'on a reçue de Christ, on a refusé d'appliquer. Et maintenant on se retrouve déjà prisonnier et on se plaint. On se plaint à qui? Bien-aimé, Nous tous, nous sommes passés par là, par toutes ces peurs de corriger les autorités, de poser les questions qui nous dérangent. On est passé par là. Mais aujourd'hui, nous devons sortir de là et appliquer la liberté. Pas la liberté pour gêner les gens, pas la liberté pour faire mal, pas la liberté. Mais quand on a un souci, on l'expose. Ce n'est pas une liberté pour contrôler les gens, c'est une liberté pour construire, c'est une liberté pour être en paix. Quand il y a un souci, on l'expose, on pose la question. Mais bien des gens ont peur de dire l'opposé de ce que pense le pasteur, parce qu'ils ont peur de se créer des problèmes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils le disent mais à gauche, à droite. Mais ils créent encore plus de problèmes que s'ils l'avaient dit en face pour régler à travers la Bible, avec la Bible, bien-aimé. Donc, nous avons cette autorité-là qu'on appelle la liberté. Nous avons aussi cette autorité-là d'exhorter. Nous devons pratiquer cela, que personne ne nous en empêche. C'est très, très important. Après que chacun soit dans son autorité, après avoir exhorté quelqu'un, tu ne vas pas le prendre à la main. Allez, applique. Non. Contente-toi de parler. Tu as parlé. Maintenant, si ce que tu dis est de Dieu, Dieu s'imposera sur la personne. Tu ne dois pas, toi, commencer maintenant comme autrefois. Un jour, le Seigneur m'avait, une fois quand j'étais dans une église, le Seigneur m'avait conduit à aller exhorter le pasteur. Je suis parti l'exhorter. Et puis, j'ai commencé à vérifier s'il appliquait mon exhortation. Et comme il n'appliquait pas, j'ai commencé à me fâcher, à murmurer dans mon cœur. Et quand on murmure dans son cœur, la Bible dit la bouche va finir par parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu commences à glisser quelques mots. Je ne comprends pas, il n'applique pas, je ne comprends pas. Et un jour, pendant la nuit, il y a une voix en colère qui m'a dit, il y a des gens qui ne se contentent pas de faire ce qu'on leur dit. Donc, la voix de Dieu m'a repris comme il faut pour me dire que je devais me contenter de faire ce qu'on m'avait demandé de dire. C'était d'aller exhorter, d'aller parler pour corriger et de les laisser. Ce n'était pas à moi de devenir huissier pour faire appliquer les choses. Donc, je devais me contenter de parler et j'ai parlé. Cela suffisait. Il fallait que je m'arrête là. C'est comme ça, bien-aimé. Donc, on a la liberté d'exhorter. Après, on laisse Dieu faire. On n'est pas là pour tenir les gens par la main, pour les faire appliquer notre exhortation. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va s'occuper du reste. Quand on commence à regarder les autres et vérifier s'ils appliquent ce qu'on a dit. Là, bien-aimé, on se dirige vers des graves problèmes. On sera tout le temps collé. D'ailleurs, Dieu fera ça exprès pour nous humilier, pour nous faire comprendre que seul lui peut changer les gens. Déjà, c'est une grande souffrance pour les pasteurs. Hein? Donc, de voir que tu as prêché, mais les gens n'ont pas changé. Donc, et là, Dieu veut t'apprendre que seul lui peut changer le cœur d'une personne. Donc, c'est très important de se limiter à l'autorité que Dieu nous donne. Exhortons, mais il ne nous donne pas l'autorité de faire appliquer, mais d'exhorter. Voilà. Et puis, il nous a donné l'autorité d'être ses ambassadeurs. On le trouve toujours dans 2 Corinthiens 5, au verset 20. Donc, il nous a fait de nous, il a fait de nous ses ambassadeurs. Et l'apôtre Paul rajoute, comme si Dieu exhortait par nous le monde. Donc, Dieu parle à travers nous et non seulement ça, il nous fait de nous des ambassadeurs. Donc, lorsque tu es dans un endroit, tu es le représentant de Dieu dans cet endroit-là. Est-ce que tu comprends ce que c'est qu'un ambassadeur? Peut-être beaucoup n'ont pas voyagé, ils ne savent pas ce que c'est qu'un ambassadeur. Donc, un ambassadeur, quand il est dans un autre pays, par exemple, l'ambassadeur d'Iran en France, là, son bureau, donc tout ce qui clôture son bureau, toute cette parcelle-là, c'est comme si c'était l'Iran en France. Donc, un policier français n'a pas la liberté d'entrer comme ça, comme il veut. C'est comme si c'était son pays en France. Donc, il est comme un président d'un petit pays en France. Ce petit pays-là, c'est toute la concession dans laquelle se trouve son bureau. C'est son pays. Et dedans, il est comme le président. C'est ça un ambassadeur. Et quand en plus on dit un ambassadeur plénipotentiaire, il a le pouvoir de prendre des décisions sans consulter le président parfois. Donc, mais là, Déjà, l'ambassadeur, c'est le représentant du président. Donc, lorsqu'un chrétien est quelque part, il est représentant du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tous les moyens du ciel sont mis à sa disposition pour faire la mission que Dieu lui demande d'accomplir. C'est très important de comprendre ces choses-là. Ça va nous enlever la peur. Ça va nous enlever les hésitations. Quand tu es appelé à quelque chose, tu sais que tu es le représentant de Dieu pour cette mission-là. Donc, il a mis à ton service toute l'armée du ciel. Il a mis à ton service tous les moyens financiers. Il a mis à ton service tout ce qu'il faut. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour faire avancer la mission que Dieu t'a confiée. Parce que tu es ambassadeur, représentant. Donc, tout chrétien est ambassadeur, représentant. Là où il est, c'est là où Dieu se trouve avec son armée, avec ses capacités pour protéger, pour s'occuper de tout ce qui concerne ce chrétien-là. Et puis, autorité sur la famille. La Bible dit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tout chrétien a une autorité, l'autorité que Joseph avait sur sa famille. Joseph a contribué au salut de sa famille. Voilà l'autorité que tout chrétien a. Tu as une autorité sur tout ce qui concerne ta famille. Et pour autant que les membres de ta famille ne sont pas convertis. Mais s'il y en a qui sont convertis, après il y a des autorités naturelles qui reviennent. Par exemple, si ton père est converti, il a quand même une autorité sur toi. Mais si les membres de ta famille, en général, ne sont pas convertis, c'est toi qui as l'autorité pour les amener au salut. C'est toi qui as l'autorité sur les événements de ta famille. Par exemple, quelqu'un veut se faire éliminer dans ta famille d'une manière ou d'une autre, soit par la magie, soit par physiquement. Tu as l'autorité de prier pour freiner ces choses-là le temps que la personne se convertisse. Enfin, sache que tu as une autorité sur ta famille et Dieu te le décrira cette autorité comme il faut. Mais prends tes responsabilités. Si toi, tu ne prends pas tes responsabilités, c'est Satan qui va prendre ses responsabilités pour détruire ta famille. Prends tes responsabilités, surtout quand on est père de famille, surtout quand on est le fils aîné. On doit prendre nos responsabilités de prendre en charge nos familles spirituellement parce qu'on est autorité, en plus naturellement et spirituellement. Donc tous les convertis, même si tu as 12 ans, 14 ans et que tu es le seul converti de ta famille, tu as autorité. C'est à toi d'empêcher les dangers dans lesquels tombe ta famille. C'est à toi dans la prière de protéger ta famille et de les amener au Seigneur. C'est ça l'autorité que nous avons. Crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc tout cela passe par la prière et l'exhortation et Dieu nous soutient. Mais quand on sait qu'on a cette autorité, on n'a plus peur. C'est ça la différence. On n'hésite plus. On ne doute plus comme si on cherchait quelque chose qui ne tombera peut-être ou pas. Mais on sait qu'on a l'autorité. Vous savez, quand Jésus prêchait, on disait, il prêchait comme s'il avait autorité. Donc quand quelqu'un parle avec autorité, c'est, donc il est sûr de ce qu'il dit. Et il est sûr qu'il a toute l'armée de Dieu pour le soutenir dans ça. Quand un huissier vient chez toi, il vient avec assurance parce qu'il sait que l'État est derrière lui. Et donc, c'est ça. Donc, la différence, c'est que un chrétien qui prie comme ça, Seigneur, sauve ma famille, bon, il ne sait même pas qu'il a une autorité, quoi. Donc, il sera faible. Mais celui qui sait qu'il a une autorité, il n'a pas peur. Même si on l'apprend que un de ses frères vient de faire un cambriolage, qu'on l'a arrêté, il est en prison, il n'a pas peur. Il sait que lui, il a autorité sur tout le plan du diable contre sa famille. L'autorité que lui a dépasse l'autorité du diable sur sa famille. Il peut briser le plan du diable, il peut changer les choses. C'est ça la différence, ça fait un chrétien différent d'un autre qui prierait au hasard. Donc c'est ça, il faut qu'on sache qu'on a cette autorité sur nos familles. On n'a pas laissé le diable empiéter sur le plan de nos familles. Même si on avait des mauvaises nouvelles, nous ne soyons pas déstabilisés par ça, parce que c'est nous qui avons l'autorité, quoi. C'est comme si Dieu te disait, mais oui, mais c'est toi qui as les boutons, pourquoi tu t'inquiètes? C'est comme si tu es dans un avion, tu es le pilote, et puis un passager vient rapidement te dire, pilote, je vois un gros nuage. Mais tu vas dire, mais oui, mais d'accord, reste calme, assis-toi. Je sais ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, on est chrétien, on nous annonce des mauvaises choses de nos familles. On dit, mais non, mais écoutez, soyez calme, c'est moi qui ai les boutons. C'est moi qui ai les manettes. Voilà. Dans la prière, je vais orienter les choses comme moi je veux. Ce n'est pas l'ennemi qui va orienter les choses. C'est ça, un chrétien différent, lui, il saura comment prier et ses prières seront efficaces. Voilà, Jésus a dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Mais beaucoup n'ont pas de foi parce qu'ils n'ont pas compris que c'est une autorité qu'ils ont, que Dieu leur a donnée. C'est très important. Et nous avons reçu l'autorité sur les forces des ténèbres. La Bible le dit dans Luc 10, 19. Donc je vous ai donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que toute puissance de l'ennemi qui t'attaque, tu as la victoire, l'avance. Tu as la victoire, tu n'as pas à avoir peur. Toute puissance de l'ennemi est à tes pieds. Toute puissance qui oserait t'attaquer. Maintenant, il y a une différence avec les missions que Dieu peut nous donner. On n'a pas à faire n'importe quelle mission parce qu'on a décidé. Non. Mais en ce qui concerne les territoires que Dieu nous a donnés, par exemple, si tu es dans ta famille, l'ennemi est en dessous de toi. Parce que c'est ton territoire. Dans ton territoire, c'est toi qui es le chef. Si Dieu t'a donné la Normandie comme territoire pour sauver les gens, c'est toi qui es le chef là-bas. Donc l'ennemi est en dessous de toi. Donc là, c'est côté attaque. Mais côté défensif, personne ne peut rien contre toi. Personne ne peut rien contre toi. Personne. Parce que tu as autorité. Si Dieu permet certaines choses, ça sera lui qui permet. Mais, sache que c'est... Comme j'ai dit, la puissance peut avoir le premier mot, mais l'autorité a toujours le dernier mot. Toujours. Parce que l'autorité finit toujours par s'appliquer. C'est une question de temps. Vous savez, les Jacques Mesrine, c'est des bandits qui ont défié la police pendant des années. Un jour, on l'a tué. Donc, on en a connu beaucoup. Qui ont défié Dieu, qui ont défié la police, qui ont défié l'État. On finit toujours par les attraper. On finit toujours. On a connu des dictateurs qui ont défié Dieu, qui ont défié la mort, qui ont défié tout ce que vous voulez. La mort a fini par les atteindre. Dieu a fini par montrer que c'est lui l'autorité. C'est lui qui tient la vie des gens dans sa main, quoi. Donc, c'est lui. Donc, on ne peut pas défier Dieu. Les gens, Paul Sartre, ont essayé de défier Dieu. Dieu a fini par montrer que c'était lui qui était chef. Jean-Paul Sartre est mort, mais on continue toujours à croire en Dieu. Voilà. Donc, la croyance en Dieu continue, mais c'est lui qui est mort. Donc, c'est Dieu qui a l'autorité et nous devons donc savoir que, en ce qui concerne les forces des ténèbres, Dieu nous a donné toute autorité. Donc, déjà du côté défensif et du côté offensif, dans le territoire que Dieu nous offre, il nous donne toute autorité. C'est très important. Voilà. Et c'est dit aussi dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc Dieu nous donne l'autorité de chasser les démons. Donc nous ne pouvons pas fuir cette autorité-là sous prétexte que celui qui est en Christ est une nouvelle création, il ne peut pas voir les démons, patati patata. Ça sont des théories, d'accord. Mais maintenant, si quelqu'un souffre, il te dit qu'il y a un démon qui me parle là, en ce moment même. Donc au lieu de faire ta philosophie, chasse d'abord les démons, après on fera la philosophie après. Donc c'est très important d'appliquer l'autorité que Dieu nous a donnée, que personne ne nous la vole. Nous continuons. Pour clôturer, Dieu nous a donné l'autorité d'être enfant de Dieu. Nous voyons cela dans Jean 1, 12. La Bible dit, il nous a donné le pouvoir. Dans nos versions, c'est écrit dans le pouvoir. Mais dans la version originale, c'est écrit l'autorité. Donc l'autorité d'être enfant de Dieu. Tu t'imagines quand tu es enfant d'un roi. C'est quoi l'autorité? Donc tu es un prince. Donc il faut s'imaginer toute la suite. Nous sommes enfants de Dieu, des princes. Et ça va changer nos prières de le savoir. Que nous sommes enfants de Dieu, enfants du roi des rois. Ça va changer notre conception de l'avenir que de le savoir. Combien de gens bien-aimés ont eu des peurs face à des hommes? Combien de gens ont tremblé? Vous savez, moi, le simple fait que je savais que j'étais enfant de Dieu, je n'avais pas peur de la malédiction d'un pasteur. Pourquoi? Parce que je savais qu'il est tout aussi enfant de Dieu que moi. Dieu ne maudit pas un enfant en faveur d'un autre enfant. Moi, je suis parent. Je ne pourrais jamais, parce qu'un de mes enfants est fâché contre un autre, maudire le deuxième. Jamais, parce que tous sont mes enfants. Rien que ce raisonnement me faisait montrer que les pasteurs qui maudissent les chrétiens, ils n'ont rien compris. Où tu as vu un père maudire un enfant parce que notre enfant est fâché? Où tu as vu ça? Vous qui êtes parents, réfléchissez. Puisqu'un enfant est fâché contre un autre enfant, tu maudirais le deuxième. Ça n'existe pas. Et rien que ça, quand j'entendais ces pasteurs-là maudire les chrétiens, je disais, oh là là, il n'a rien compris. Dieu ne peut pas frapper son enfant parce que notre enfant est fâché. Dieu veut unir les enfants. Dieu veut que ses enfants s'aiment, soient ensemble. Et je disais, ils n'ont rien compris. Et moi-même, bien-aimé, même ayant des titres de pasteur ancien, je respecte tous les chrétiens. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils sont enfants de Dieu. Je sais que si j'ose avoir un mauvais comportement sur eux, c'est moi qui aurai des comptes à rendre. Parce qu'ils ont une autorité. Ce sont des princes. Bien-aimés, on ne s'amuse pas avec les gens. Les chrétiens sont des enfants de Dieu. Dieu dit, c'est lui qui vous touche, touche à la prunelle de mes yeux. Même si tu as le titre d'ancien, de pasteur, il faut faire attention aux chrétiens. À tout celui qui est véritable chrétien, il faut faire très attention. C'est un enfant de Dieu, c'est un prince. Tu ne peux pas le manipuler comme tu veux. Tu ne peux pas crier sur lui comme tu veux. Non, bien-aimé, sortir de l'autorité que Dieu t'a donnée sur lui, tu auras des comptes à rendre. Nous voyons des pasteurs en Afrique, comme on m'a raconté, on va tu vas les visiter, tu trouves quelqu'un en train de tondre la pelouse, il te dit, bon oui, ça c'est un ancien qui tond la pelouse, ça fait partie de la formation. Ah! Donc tu commences à prendre les enfants de Dieu pour les faire tondre la pelouse, parce que c'est la formation, bien-aimé. Non, je dis qu'ils ont la liberté de le faire. D'accord? Si des enfants de Dieu veulent tondre ta pelouse, il n'y a pas de problème. Mais puisque quelqu'un, bientôt tu vas le consacrer pasteur, la formation d'abord, tondre la pelouse, bien aimé. Non! Ça, c'est blaguer avec les enfants de Dieu. Et tous ceux qui font là, ceux qui font cela, ils rendront de compte à Dieu. Notre Seigneur Jésus a dit quoi? Qui est le plus grand? Est-ce que c'est celui qui est à table ou c'est celui qui sert? Il dit, c'est celui qui est à table, mais moi, je suis auprès de vous comme celui qui sert. Bien-aimé, voilà l'exemple que Jésus nous a donné. Il a respecté ses propres disciples, parce qu'il savait que c'était ses disciples, les disciples du roi. Donc lui s'est humilié parce qu'il savait que c'était pas n'importe qui ces gens-là. C'était ses disciples à lui, bien-aimé. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se moquent des enfants de Dieu, qui osent les calomnier, qui osent les traiter mal sous prétexte qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes, ils sont je ne sais pas quoi. On les appelle maintenant le peuple de Dieu. Donc il y a le peuple de Dieu et il y a, comment dire, une autre catégorie de personnes, les serviteurs de Dieu. Non, nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. Nous tous, nous sommes le peuple de Dieu. Chacun a son rôle. On ne va pas dire qu'on est tous pareils. On est tous pareils devant Dieu, mais chacun a son rôle dans le fonctionnement de l'Église. Mais maintenant, faire comme une catégorisation, il y a le peuple de Dieu et il y a un côté aussi. Il y a les... Non, bien-aimés. Ces catégorisations-là ne sont pas de Dieu. Ça contribue à fortifier l'orgueil des gens. Ça contribue à faire croire aux gens qu'ils sont spéciaux et que les autres sont normaux. C'est faux. Nous tous, nous sommes spéciaux parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons cette autorité-là d'enfants de Dieu que personne ne la vole. Que Satan ne vienne pas te dire, bien-aimé, dernièrement, je faisais une délivrance et Satan était entré dans une personne et je pose la question, je dis, de quel droit es-tu entré dans cette personne? Et il me répond, parce qu'elle m'appartient. Moi, je dis, c'est faux, il ne peut pas t'appartenir, parce qu'il a cru en Jésus-Christ. Effectivement, il voulait mentir. Après, il m'a donné la vraie raison, bien-aimé. Tu appartiens à Jésus. Tu es propriété privée de Jésus, comme a dit un évangéliste de Mulhouse. Tu es propriété privée de Jésus-Christ, bien-aimé. Pendant qu'il prêchait, il y a un magicien qui était venu tester ses pouvoirs. Et le soir, ce magicien-là, il est devenu fou. Et donc, les gens sont venus vers ce magicien-là pour lui dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'étais parti tester cet homme-là. Maintenant, il était devenu fou. Il ne savait pas qu'il touchait à la propriété privée de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le chrétien. C'est ça l'enfant de Dieu. Il dort tranquille. Son Dieu s'occupe de sa protection. tout homme forgé contre lui est sans effet. Dieu connaît son avenir et il prévoit son plan d'avenir parce qu'il a des plans de paix et non de malheur. Psaume 112, 7, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles parce que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Bien-aimé, c'est une richesse d'être enfant de Dieu. C'est une autorité exceptionnelle. Je laisse le Saint-Esprit lui-même continuer dans nos cœurs cette affaire-là. Que Dieu soit béni, nous allons prier le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour tes révélations qui éclairent les petits que nous sommes, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour l'autorité que tu nous as donnée d'être tes enfants, le pouvoir d'être tes enfants, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur de gloire, de nous révéler ta parole afin que nous soyons libres, comme il est écrit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, Seigneur. Nous voulons qu'à partir d'aujourd'hui, tu reprennes ta place d'autorité suprême dans nos vies, Seigneur. Là où nous avons laissé les autorités indirectes dominer, ou parfois même certaines autorités directes, nous les avons laissées dominer outre mesure. Seigneur, nous voulons que ce soit toi qui domines et que tu nous montres devant qui nous devons nous soumettre, Seigneur de gloire, pour respecter l'ordre que tu as établi. Au nom de Jésus, Père. Oh Seigneur, restaure l'autorité d'être enfant de Dieu dans nos cœurs. Restaure cette autorité, Seigneur, d'être enfant de Dieu. Restaure cette autorité d'être enfant de Dieu. L'autorité de la liberté en Christ. L'autorité, Seigneur, d'exhorter. L'autorité, Seigneur, d'être ambassadeur, Seigneur. L'autorité de la réconciliation. Oh Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous réalisions, Seigneur, ta parole. Ouvre nos yeux, Seigneur. Nous voulons comprendre ta parole, Seigneur. Afin d'être des chrétiens libres, libres. Et si nous sommes libres, nous serons efficaces dans ton œuvre, Seigneur. Alléluia.